Les goélettes de Charlevoix sillonnaient le fleuve Saint-Laurent pour ravitailler les villages en vive, transporter le bois vers les papetières. C'est 300 ans de relation avec le fleuve. On a beaucoup parlé de ces hommes et de la mer, du Saint-Laurent si difficile à naviguer, qui prenait des vies au gré des tempêtes. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment des femmes qui restent à terre, les terres de roche de Charlevoix? On a bien peu parlé d'elles. Elles étaient épouses, mères, cuisinières, gestionnaires, mais aussi entrepreneurs, développeurs, rarement navigatrices, mais parfois membres de l'équipage. À travers ce balado de six épisodes, on s'invite chez ces femmes au pays des goélettes.
Comme mon père, il me disait, eh bien là, t'es toute seule, il y a ça, ça, ça. Alors, je conduisais le bateau, puis lui, il allait des fois se reposer, puis il me disait, si tu as besoin, tu me réveilles. Parce que je connaissais les lignes, les lumières de port là, sur le trajet, là où il devait suivre la route.
Alida Bouchard, de Petite-Rivière-Saint-François, a navigué sur l'étendard dans les années 40.
Antoine Côté, dans le livre désormais introuvable « L'ère des goélettes du Saint-Laurent », a écrit « Certaines épouses et filles d'armateurs étaient membres actifs de l'équipage et elles accomplissaient souvent les mêmes tâches additionnellement réservées aux marins aguerris. » Bien, on va en rencontrer une, Jeanne-Paul Desgagnés. Je dirais un personnage plus grande que nature, une femme du pays des goélettes qui a navigué, qui a même écrit un livre, qu'on a qualifié de roman, mais qui est pas mal plus une autofiction. Ici Marie Grégoire. Loin d'être didactique, notre volonté est de vous faire découvrir de façon même ludique des paroles de femmes qui ont vécu, observé, qui sont passionnées pour les goélettes. Et pour nous faire voguer à travers les flots de leur histoire, la musique de Stéphane Tétrault, violoncelliste, et de Noëlla Huet, mezzo-soprano, avec l'accompagnement des douces paroles de David Bouchard, comédien.
Demain, si la mer est docile, je partirai de grand matin. J'irai te chercher une île, celle que tu montres avec la main. Je la ceinturerai en filet, la traînerai près du grand quai. Tu l'offriras au jour en l'honneur de nos amours.
Mon oncle qui travaillait comme cuisinier, il prenait des fois une semaine, deux semaines de vacances l'été. Et puis, j'allais le remplacer avec ma grand-mère. C'est pas moi qui faisais la cuisine, mais j'allais l'aider. Je préparais les desserts, je servais les hommes, je lavais la vaisselle, je faisais des gâteaux. Et dans ce temps-là, moi, j'aimais ça avec ma grand-mère. C'est elle qui faisait le plus gros de l'ouvrage, les menus. C'est elle qui s'occupait de ça. Moi, j'ai plus chaud et pas des légumes. Mais oui, je l'aidais. C'était des gros menus qu'elle faisait, comme des bouillies, des gros rôtis, puis du ragoût, puis des pâtes à viande. On faisait des pâtes à viande, les hommes aimaient ça. C'était quand même dur, là, être cuisinière. On finissait le dîner, puis elle était prête à recommencer à préparer le souper.
Louisette Boivin-Tremblay, de Saint-Joseph-de-la-Rive, petite fille et fille de Calfa, a navigué dans les années 50. Elle faisait la cuisine avec sa grand-mère, Marie-Ange Tremblay.
Jeanne-Paul Desgagnés, ça vous parle, ça?
Oui, mais c'est vrai. C'est vrai ce qu'elle vient de dire, là. C'est un travail à temps plein, la cuisiner. Puis aussi, il faut nettoyer la cuisine, puis avec ce qui va avec, là aussi, là, évidemment.
Parce que vous avez fait ça, vous.
Ben
vous
oui,
avez navigué.
Plusieurs années, oui.
Combien d'années?
7-8 ans.
Puis comment on décidait, parce que quand on était fille, on n'était pas nécessairement dédié à naviguer, comment on décidait quand nous, on allait embarquer puis qu'on allait faire partie de l'équipage?
Mais ça allait de soi. Quand on... Nos parents nous parlaient tout le temps des bateaux. Mon père avait un bateau, puis c'était normal.
Normal que les filles embarquent?
Ben oui, mais c'est pas toutes les filles qui étaient intéressées, mais dans mon cas, c'était normal.
Vous, c'était comme... Vous étiez dédié à ça?
Ben dédié, là, disons, ça donnait comme ça. Puis moi, j'aime ça cuisiner. Puis quand on était enfant, on allait sur les bateaux souvent. Puis il faut aimer ça, c'est parce que j'aimais ça aussi.
Aviez-vous des soeurs?
J'avais une soeur qui est décédée à l'âge de 13 ans, très jeune.
Fait qu'elle n'a pas pu,
non,
elle.
Non, avec elle, ça n'a rien passé. Alors moi, je trouvais ça normal, là, de faire la cuisine. Puis sur un bateau, c'est un privilège.
C'est ça.
C'est un privilège d'avoir vécu ce que j'ai vécu. C'était une vie... c'était pas une vie de l'ordinaire, là.
Mais parlez-nous-en de cette vie-là qui n'était pas ordinaire.
C'était intéressant parce qu'il se passait... Il n'y avait jamais deux jours pareils. Alors, on se déplaçait d'un quai à l'autre, puis avec les intempéries, la température, la beauté du fleuve,
oui.
Le soleil sur le...
Là, on est en quelle année?
Dans les années 65, à peu près. Et c'était extraordinaire de voir la beauté puis avec les garçons, parce que moi, je trouve les garçons gentils.
Je sais pas.
Oui.
Votre père, il voyait ça comment que vous décidiez
de prendre? C'était normal.
Oui?
C'était normal. Chez nous, c'était normal. Les cultivateurs entraient dans la terre pour cultiver, puis les marins sortaient. Alors, moi, j'avais une gang de frères. C'était normal que j'embarque avec eux autres.
Puis votre mère, ça ne l'inquiétait pas?
Non, non. Elle n'était pas inquiète parce que je suis capable de me défendre. Elle disait souvent, quand elle a quelque chose dans la tête, elle ne revire pas.
Oh, mais ça veut dire que ça prenait quand même un
ben,
certain
même,
tempérament.
Faut... Oui.
Mais dans vos cousines, là, puis dans vos connaissances, là,
non,
est-ce qu'il y en avait
non,
plusieurs?
Non, ils ne l'ont pas fait. Mais moi, j'ai de l'humour en plus.
Oui, bien ça, j'en doute pas.
Je dis en plus parce que c'est vrai. Alors, ça aidait beaucoup avec les choses, les petits écueils qui pouvaient arriver. Ben, moi, je tournais ça en blague. Là.
Oui, mais avant de naviguer?
Ah ben là, j'étais jeune, là. J'étais...
Mais c'est ça. Est-ce que vous aimiez ça, cette vie-là de fille entre filles, quand les gars étaient partis?
Bien, de fille en fille, il y avait des garçons dans la maison.
Qui restaient parce qu'eux autres n'étaient pas partis.
Ben oui, mes frères étaient là. J'ai grandi avec eux autres, là. Puis j'ai pas grandi avec les filles, là, j'avais juste ma mère, puis mon autre soeur qui est décédée très jeune. Fait que j'ai grandi avec des garçons, j'ai travaillé avec des garçons, puis j'ai toujours avec des garçons, puis j'aime ça.
Ça faisait partie des
oui.
choses que vous aimiez, qui a finalement validé votre choix de naviguer puis d'être bien dans la navigation.
Oui, mais c'est pas ça qui a influencé, mais les choses, comme je vous dis, ça allait de soi quand... Tout le monde naviguait, puis la fille embarquait avec.
On va continuer notre navigation un peu plus tard.
OK.
L'appel de la mer mystérieuse vous fait vivre dans cet état idéal où l'action rejoint le rêve. Ce rêve de marin qui n'a pour limite que la force de notre ferveur. Pas plus que le bateau ne reste immobile, ne s'arrête l'essor de notre pensée. Le voilier ne laisse nulle trace de son passage sur la mer. Faudra-t-il aussi que nulle trace ne reste en nous de notre pensée et de nos rêves? Non. Tant de chants montent de la mer qu'à leurs accents notre pensée s'unit, diverse et mobile, comme la lame profonde. D'avoir entendu ces chants, il nous reste dans le cœur toute la ferveur qu'il contenait. Le meilleur de notre âme fut de les avoir écoutés, dans l'apaisement mystique des grands calmes, comme dans le déchaînement des tempêtes, les hurlements du vent, la colère des lames. Partir, pour nous, c'est retrouver la mer et nous retrouver en elle. Les marins savent mieux aimer que les autres, car ils connaissent ce qu'est la douleur de l'absence, le déchirement de la séparation. Au retour, notre ferveur sera accrue de tout l'amour qui chante sur la mer sa grave et mystérieuse chanson.
Mais j'ai appris à conduire, parce que à certains endroits, je pouvais conduire le bateau. Il y avait mon frère, il y avait des employés. Les employés dormaient en bas, mais mon père dormait dans la cabine du capitaine. À la cabine, il y avait deux lits superposés, là. Et puis moi, j'avais le lit en haut, mon père avait le lit en bas. J'étais bien protégée. C'était des décors de 4 heures. Hein. Je m'occupais comme un matelot.
Jeanne-Paul Desgagnés, vous étiez cuisinière. Ça se passait comment le quotidien? On se levait tôt, on se couchait tard?
C'était les heures qu'on a habituellement dans une maison. Puis, parce que moi, je n'étais pas soumise aux mêmes horaires que les garçons qui travaillaient de 4 heures en 4 heures. Mm-hmm. Ils se couchaient que 4 heures. Puis ils dormaient 4 heures. Puis c'était incroyable. Là. Mais moi, je faisais le déjeuner, dîner, souper. Mais il y a des fois, je ne me levais pas pour le déjeuner, par exemple.
Oh, Pauline! Vous faisiez vous chicaner?
Ben des fois, elle devrait se lever. Et puis, c'était les horaires. Le dîner, genre, je ne faisais pas de passe-doigts. On dînait, puis on soupait. Parce qu'autrement, ça n'aurait pas eu de bon sens. Là. Mais c'était l'horaire qu'on retrouve dans une maison.
Puis ensuite de ça, là, vous partiez pour combien de temps? C'était quoi?
Ça dépendait, là, quand, mettons, on allait chercher du bois dans le bas du fleuve, puis on montait ça à Trois-Rivières, puis on est allé sur les grands lacs, puis tout ça, quelques jours, mettons, 2-3 jours, puis on arrêtait à Québec, là, le point d'attache était là, puis en tout cas, au moment où moi j'ai navigué, puis c'était comme ça, là, c'était correct, là, c'est quelques jours, ça. On traversait pas l'océan quand même.
Non, mais vous étiez parti combien de temps de chez vous quand il fallait faire justement là, tout un trajet pour revenir?
Ça pouvait durer une semaine.
Une semaine.
Oui, oui. On descendait dans le bas du fleuve, puis on remontait, mettons, on déchargeait le bois à Trois-Rivières ou à Montréal, ou on est allé sur les grands lacs aussi.
Puis, ça veut dire une semaine, vous ne retourniez pas coucher chez vous après ça pour une autre semaine? Là.
Non. Mais on arrêtait tout simplement quand la marée adonnait. On arrêtait des fois parce que ça ne donnait rien de continuer. Si la marée était basse, le bateau marchait pour rien.
Puis là, dans ce temps-là, vous faisiez quoi? Vous étiez en congé?
On allait chez nos familles respectives. Là. Mes parents, moi, à ce moment-là, puis... C'est ça, là, mais c'était correct, là.
Fait que vous étiez parti longtemps, vous voyiez pas longtemps votre famille, mais la voyiez quand même souvent.
Régulièrement.
Régulièrement.
Oui,
régulièrement.
Oui, oui. Parce que les trajets étaient quand même pas si longs que ça, là.
Avez-vous connu des moments où la mer vous a fait peur? Vous nous avez dit que vous aviez pas peur des gars, ça, c'est correct. Mais la mer, ça peut être intimidant, ça peut être rude.
Mais quelqu'un qui a peur, il navigue pas.
OK.
Ouais, mais je me souviens, par exemple, une fois, j'avais pas pu sortir de ma cabine. Il ventait trop. Puis les rideaux étaient rendus comme ça, tellement que ça penchait.
Oula!
Alors, je regardais le hublot, puis les rideaux étaient droits. Oh, c'est pas le temps de sortir. Donc, c'est arrivé quelques fois, mais pas tant que ça. Là. Mais ben, on a eu des affaires, là, comme au mois de novembre, quand quand l'eau prend sur les cordages, puis la glace, puis le voyage qui change de bord, puis le bateau s'en va comme ça tout le long.
Vous n'avez jamais eu peur?
Là, cette fois-là, par exemple, toute la gang avait eu peur. Tout l'équipage avait eu peur, parce que, comme j'ai dit, quand on est arrivé à cette île, là, tout le monde était blême, pâle, puis il n'y a pas personne qui a dit un mot. Tellement tout le monde a eu peur. Puis, au mois de novembre, quand le bateau est penché comme ça, on avait hâte d'arriver. Mais ça arrive pas souvent, là. Ça arrivait pas souvent.
Puis les gens en parlaient pas après, là.
Non, mais là, en voulant dire, on peut pas rien dire. Quand on a peur, on parle plus, hein? Oui. Alors, mais rarement quand même. Mais c'est sûr, à la fin de l'été, à l'automne, au mois de novembre, là, c'est plus dangereux. C'est pour ça que les goélettes, ils terminaient pas très tard, là, parce que justement, à cause de la glace qu'ils prenaient, puis le vent, puis c'est incroyable.
Hmm? À cause des éléments. Ah, vous avez décidé d'écrire, on le disait, quelque chose qui s'appelait comme un roman qui ressemble pas mal plus à votre histoire.
C'est la vérité, ça.
C'est ça, hein? C'est une auto-fiction.
Oui, c'est la vérité.
Ça s'appelle « Sur la goélette d'Edmond ». Pourquoi vous avez décidé de mettre ça sur papier, cette expérience-là?
Bien, il devrait en avoir plus, parce que c'est une période extraordinaire des Québécois, de notre vécu. On devrait remettre ça en marche de toute façon. Les quais sont en rocher, puis tout ça. Pour soulager les routes, oui, avec les camions, tout ça, c'est extraordinaire. Moi, je dis souvent que les jeunes devraient naviguer 2-3 étés pour savoir comment ça fonctionne sur la mer. Puis quand on arrive à terre, on trouve ça relativement facile. C'est facile, la vie sur terre, quand on a navigué, avec les intempéries, les éléments, jour et nuit, c'est jour et nuit. Puis il n'y a pas de caprice sur un bateau, là. Alors, tu es obligé de fonctionner avec ce qui se présente. Et il faut être débrouillard. Alors, je le dis souvent, là, moi, je dis ça à des gens, là, va vivre sur un bateau, tu vas voir, tu te lamenteras plus.
Ça nous apprend à s'adapter.
À combattre, là, puis oui, à s'adapter aux imprévus. Puis il y a du secours, il n'y en a pas, là, si ça ne va pas bien. Là, à un moment donné, comme je disais, là, il y a le radar qui manque, puis la brume qui s'installe, puis c'est la nuit, qu'est-ce qu'on fait? Si on se met à avoir peur, on va prendre la chaloupe et on va s'en aller. Hein? Mais c'est incroyable, là, tout le danger, mais on n'en était pas conscient. C'est après coup qu'on dit « Colin avait des bateaux souvent mal équipés, mal organisés, puis on naviguait puis on n'avait pas peur. Mais mais la peur, elle vient plus tard. Ça me fait penser à Jean-Paul Belmondo qui disait « Hey, vous avez fait des cascades dans vos films, vous n'aviez pas peur. » Il dit « J'ai eu peur après. »
Fait que comme ça, vous avez un peu eu le sentiment que ce que vous faisiez était pas mal plus téméraire que vous le pensiez au moment où vous le viviez.
Oui, puis là, quand le bateau est bas, bien pour une fille, en tout cas, monter l'échelle du quai, c'est haut, ça. Quand le bateau, la mer est basse, puis le bateau est très bas, puis là, il faut monter dans l'échelle sur le quai. Moi, j'ai fait ça, moi. Puis descendre l'échelle, puis sauter sur le bateau parce qu'il n'est pas trop collé après le quai. Alors... Puis là, après ça, j'ai dit, Colin, comment ça fait que j'ai fait ça? Mais on n'est pas conscient de ça, le temps qu'on le fait. Comme dans bien des choses, de toute façon.
Tout à fait. En terminant, si je vous demandais de me dire ce que vous retenez des femmes et des goélettes, donc, est-ce que pour vous, ces femmes-là ont contribué à cette industrie-là?
Finalement? Oui, oui. Puis des femmes qui ont navigué, qui sont devenues capitaines de bateaux. Ils n'ont pas juste fait la cuisine, ils ont fait d'autres choses. Mais c'est un apport important, puis ça amène un certain équilibre aussi sur un bateau. C'est, en tout cas, moi, je me trouve chanceuse d'avoir vécu ça, d'avoir été témoin de ça, puis d'avoir vécu sur un bateau. C'est une vraie chance que j'ai eue. Puis j'encourage les femmes à naviguer davantage sur les bateaux. Puis les garçons aiment ça, puis nous autres, on aime ça être avec les garçons.
Bien, je peux vous dire, Jeanne-Paul Degagné, que nous, on est chanceux de vous avoir eu.
Merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est gentil.
Merci d'avoir été avec nous.
S'en aller sur la mer en cherchant le profond, la clé ou le mystère, la nature ou le fond. S'en aller sur la mer en portant dans son cœur ses enfants ou sa mère, les ennuis du bonheur. S'en aller sur la mer en portant sur son dos les années comme hier, les amours au repos. S'en aller sur la mer en cherchant l'avenir, le soleil ou l'hiver, la saison à finir. S'en aller sur la mer au souvenir de naguère, la marée de nuit sur la mer de la vie, la marée de la vie au passé, la survie. S'en aller sur la mer au souvenir de naguère, s'en aller sur la mer en cherchant la raison, aujourd'hui comme hier, l'infini horizon.
Chantons pour passer le temps, les amours passés d'une belle fille. Chantons pour passer le temps, les amours passés d'une fille de 15 ans. Aussitôt qu'elle fut promise, aussitôt elle changea de mise et prit l'habit de matelot. Il vint s'embarquer à bord du navire, il prit l'habit de matelot. Il vint s'embarquer à bord du vaisseau.
On allait faire le grand ménage le printemps, là. Le printemps avant que le bateau parte, là. J'allais avec ma grand-mère puis ma mère, on allait l'aider, mon oncle, à faire son grand ménage. Tout nettoyer, là, dans les armoires, tout sortir la vaisselle, puis faire le ménage. Parce qu'on avait une chambre à nous deux, moi, ma grand-mère puis moi, là. La chambre était juste à côté de la salle à manger. Puis on faisait le ménage de la chambre pour nous autres, puis nettoyer toutes les armoires.
On l'a vu, les femmes avaient une contribution active et Jeanne-Paul Desgagné nous a montré que ça pouvait être une vie qui était parfois houleuse. Dans le prochain épisode, on a quelque chose comme un joli titre pour nous illustrer de quoi on va parler. Pour un musée, les femmes font chantier. On va apprendre pourquoi et comment des femmes de Saint-Joseph-de-la-Rive ont mis au monde un musée avec sa première directrice générale, Pierrette Tremblay. Ici Marie Grégoire. Ce balado est rendu possible grâce à un appui du ministère de la Culture du Québec et au travail de l'équipe de Francine Plourde et d'Alexis Desgagné pour la recherche et les trésors artistiques, de Marianne Rainville qui est l'idéatrice et notre technicien Alexis Tremblay. Ce balado est enregistré au Domaine Forget et est une production du Musée maritime de Charlevoix.